même pas peur.
Grégory Fèvre,
Héloïse Simon.
Une émission qui va vous faire aimer aller au théâtre. C'est une question que je me suis posée en feuilletant quelques brochures de théâtre. Le complément d'objet direct est-il une espèce grammaticale en voie d'extinction? Ici on interroge, là on questionne, ici on fuse, là on repense, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Ou peut-être qui d'ailleurs? Le verbe tout seul nous entraîne dans l'abstraction, dans l'absence d'objet, dans le geste, le matériau théâtral qui fait que quand il lit ses brochures, le spectateur se demande bien s'il a eu le courage de réserver sa place, ce qu'il va aller voir, de quoi ça parlera et s'il y a ou non des personnages. Il reste souvent le théâtre jeune public pour proposer des histoires, des récits, des drames. Ou peut-être aussi on questionne, interroge, fuse, explose, même turlupine, mais grâce à un identifiable quelque chose. Peut-être est-ce simplement l'exercice de style des brochures de salles de théâtre qui apprécie les odnis, les objets directs non identifiés. Toujours est-il que ça me fait plaisir de vous dire que notre invité d'aujourd'hui n'a peur ni des qui, ni des quoi et relève le défi d'une langue pleine de COD.
Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Grenoble 90.8 pour le troisième épisode de Même pas peur, votre émission sur le théâtre, dans laquelle nous n'avons peur de rien, surtout pas du théâtre contemporain. Héloïse Simon et moi-même vous emmenons faire un tour dans les coulisses et sur les planches. Ça va Héloïse ?
Bah ça va, et toi Grégory ?
Très très bien, je suis ravie.
Alors au programme aujourd'hui, nous parlerons de l'homme nouveau, de solitude, de sexe et de biologie moléculaire avec notre invité Julien Gosselin qui met en scène à l'MC2 les particules élémentaires de Houellebecq. Nous ferons à la fin un tour du côté de l'agenda des pièces à voir par ici.
Une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on chamboule les séquences phares de notre émission auxquelles vous vous étiez habitués lors des deux numéros précédents.
Et en attendant, attachez vos ceintures pour un tour joyeusement dépressif du XXe siècle.
Théâtrophobe
et théâtrophile.
Bienvenue.
Bonjour Julien Gosselin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous mettez donc en scène les particules élémentaires à la MC2, c'est du 10 au 21 mars. Je préviens nos auditeurs et notre invité d'ailleurs que Grégory a vu la pièce mais n'a pas lu le livre et que moi-même j'ai lu le livre mais pas vu la pièce. C'est ce qui s'appelle du travail d'équipe. Tout de suite après l'émission, Grégory achètera le roman et je me précipiterai au théâtre. C'est ce qu'on appellera alors du travail bien fait. En attendant, nous pouvons interroger notre invité sur les deux angles à la fois.
Et c'est ça qui est formidable, en plus du fait d'avoir eu la chance que vous ayez accepté notre invitation.
Alors, Julien Gosselin, comment avez-vous rencontré cet auteur, ou d'ailleurs ce roman ?
Je l'ai rencontré quand j'étais au lycée. J'ai commencé à lire ses poèmes. Je ne sais pas comment j'ai eu ça entre les mains, à vrai dire. Je crois que j'ai peut-être été attiré au départ par sa réputation un petit peu sulfureuse, qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est une chose qui ne m'intéresse plus du tout chez lui, mais enfin, cette idée comme ça qu'il serait une sorte d'écrivain extrêmement polémique. C'est pas ça qui m'émeut chez lui. En tout cas, j'ai eu ça entre les mains, j'ai commencé à lire les poèmes, et ça m'a énormément plu. J'ai eu l'impression de trouver quelque chose qui faisait sens dans ma vie, même ma vie de tous les jours, et qui m'émeuvait énormément. Et puis j'ai continué à le lire, j'ai lu quelques romans, et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Et alors, qu'est-ce qui vous a pris après de vous dire, tiens, si je faisais une adaptation pour le théâtre ?
Il y avait deux choses. La première chose, c'était que dans le parcours théâtral du collectif, je travaille avec plusieurs acteurs depuis quelques années, depuis la sortie de l'école. Dans notre parcours, il y avait un moment où on avait besoin de trouver autre chose que du matériau purement théâtral, je veux dire des pièces exclusivement dialoguées, tout ça. On avait besoin de trouver des matériaux qui puissent nous permettre de travailler la narration, qui puissent nous permettre de travailler la poésie, qui puissent nous permettre d'utiliser la musique, notamment en live, qui puissent nous permettre de faire des grandes choses collectives en même temps à l'intérieur des toutes petites choses, des petites scènes dialoguées purement théâtrales et bourgeoises. Voilà, donc il fallait tout ça. On en avait le besoin. Et puis, dans le même temps, moi, j'avais besoin d'explorer des grands thèmes. J'en avais un petit peu marre de... Enfin, j'ai du mal à supporter le théâtre quand il est petit, réduit, quand il se regarde un petit peu. J'avais envie de grande forme, comme il y a des grands romans. Et donc, du coup, c'est ces deux mouvements-là font que je suis allé tout naturellement vers Houellebecq. Et puis, Les Particules élémentaires, c'était peut-être son roman le plus évident de ce point de vue-là.
Et comment on travaille concrètement à l'adaptation théâtrale? Est-ce qu'on choisit d'abord des passages? Est-ce qu'on se concentre, j'allais dire sur les dialogues, mais d'après ce que vous venez de dire, ça a l'air d'être l'inverse. On se concentre sur ce qui n'est pas des dialogues. Comment on fait?
C'est très variable. La première partie du travail, je le fais tout seul chez moi. Et généralement, il s'agit plutôt d'un travail de coupe. C'est-à-dire que j'essaie, au début, je coupe tout ce qui n'est pas un crève-cœur pour moi à couper. Donc à chaque fois que je ris ou à chaque fois que je suis ému ou à chaque fois que je trouve quelque chose de grand, j'arrive pas à couper. Donc je garde. Et puis au bout d'un moment, à l'intérieur de ça, j'essaye de construire. J'essaye de voir comment l'auteur a construit son œuvre. Disons que j'essaye de... La structure de l'œuvre, je la casse pas. Là, je suis en train d'adapter un roman qui fait 1300 pages qui s'appelle 2666 d'un écrivain qui s'appelle Bolaño.
Ah, de Bolaño. Absolument. Ah, moi, je connais bien cet auteur. J'aime beaucoup.
Généralement, ceux qui l'ont lu l'aiment. Mais enfin, il y a peut-être des exceptions, cela dit. Mais donc voilà, et l'idée pour moi, c'est de garder vraiment la structure. Une fois que je mets en avant même, je montre presque plus la structure que le romancier lui-même, pour qu'ensuite, en fait, on ait un objet relativement construit. Et à l'intérieur de ça, j'essaye d'accélérer certaines scènes, j'essaye de ralentir le rythme cardiaque d'autres scènes, et puis j'essaye surtout de pas tout dialoguiser. C'est-à-dire que parfois il y a des grands passages dialogués quand ça nous arrange, mais parfois aussi un long passage narratif peut être extrêmement beau. Toute la fin du spectacle des particules élémentaires, par exemple, c'est une sorte de longue narration déguisée. Alors évidemment, il se passe plusieurs choses à la toute fin du spectacle, mais les dernières 20 minutes, c'est exclusivement de la narration.
Juste peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas lu Les Particules élémentaires, donc je vais faire un résumé à vitesse grand V.
C'est la spécialiste des résumés à vitesse grand V.
Donc c'est une fresque du XXe siècle. Les Particules élémentaires suivent la vie de deux demi-frères, Bruno, le prof de lettres à la libido exacerbée, et Michel, le chercheur en biologie moléculaire à la libido plutôt absente, puisqu'il préfère se consacrer aux questions scientifiques fondamentales. Alors, pour suivre ces deux hommes et leur rencontre épisodique, on passera un peu comme dans une comédie humaine moderne, par l'histoire de leurs parents, de leur enfance, des phénomènes culturels divers, mouvement hippie, esprit 68, club échangiste, club med, liés à leur vie sentimentale ou intellectuelle.
Bravo.
Et alors justement, oui, c'est grand V, quoi. On a durant toute la lecture de ce roman, pour moi en tout cas, l'impression que c'est un récit cataclysmique, catastrophique. Et en fait, ça débouche, j'étais vraiment surprise, par quelque chose qui est complètement autre chose, un souffle très positif, quasiment épique. Est-ce que vous avez gardé cette construction-là dans l'adaptation ?
On l'a vraiment gardé. Après, il se trouve que le théâtre fait varier ce sentiment-là chez les spectateurs. On a des spectateurs qui, à la fin, trouvent qu'on ouvre sur quelque chose d'assez positif et d'assez... Le final est un mélange très, très fort, et ça, Houellebecq est très fort pour ça, entre un moment très poétique, parce que le spectacle se termine par un poème, et en même temps, un moment, peut-être le moment le plus politique du spectacle, parce qu'il ouvre sur une grande question scientifique et puis une grande question morale. Et lié au clonage. Et on a chez les spectateurs deux types de réactions, c'est-à-dire des gens qui disent tout simplement « moi, j'ai pas envie de vivre ça, le clonage, un jour dans ma vie, et je trouve cette situation assez violente », et d'autres qui sentent que Houellebecq utilise le clonage comme un débouché poétique et une sortie un peu de l'enfer dans lequel sont enfermés ces personnages. Donc, je peux vous dire qu'il y a des réactions extrêmement différentes là-dessus, et moi, j'ai pas de réponse fermée à ce sujet.
Et dans la pièce, alors par rapport à l'adaptation, j'ai vraiment ressenti, moi, une différence, pas formelle, mais une différence de sensation entre le premier acte et le deuxième acte. J'avais l'impression, dans le premier acte, d'avoir comme si on me posait tous les éléments qui allaient prendre corps dans le deuxième, qui, pour le coup, se transforme pour le spectateur en une véritable vague d'émotions. Donc, moi qui n'ai pas lu le roman, ma question est de savoir si le roman est construit comme ça également. Et s'il y a une progression comme ça qui fait qu'à la deuxième moitié, tout vous parvient dans la figure et dans le corps de manière sensible.
Non, c'est pas aussi clair dans le roman, même pas du tout. Il y a quand même des éléments liés à ça. Il y a au départ du roman vraiment tout un récit sur le passé des personnages, et ensuite on arrive vraiment dans le présent de leur vie. Et là, forcément, on est dans des problématiques qui sont plus intéressantes. Par exemple. Quand on est dans l'enfance d'Annabelle et de Michel, on est dans quelque chose d'assez idyllique, dans un monde perdu. Ça, on l'a dans le livre. Et puis dans le présent, on a vraiment les questionnements sur le besoin d'Annabelle, par exemple, d'avoir un enfant, qui sont forcément beaucoup plus puissants et beaucoup plus émouvants d'une certaine manière. Donc il y a ça dans le livre, mais en même temps peut-être que j'ai tiré un petit peu la construction, en tout cas le rythme musical presque du spectacle. Il y a un roman d'Houellebecq qui s'appelle La possibilité du Nil, qui est construit comme ça en vagues, qui est beaucoup plus proche de ce que je fais des particules élémentaires là théâtralement. C'est-à-dire qu'il est construit presque comme une chanson. Si vous voulez, si je faisais un exemple musical, on pourrait dire que les particules élémentaires est construit comme quelque chose de beaucoup plus plat, comme une sorte de grand mouvement de piano, on pourrait dire, et j'en fais quelque chose qui ressemblerait plus à un morceau de post-rock, on pourrait dire, avec des grandes montées musicales et des grandes chutes aussi. La possibilité du Nil est construit comme ça. Et du coup, voilà, peut-être que c'est la chose que j'essaie de mettre en place, et de fait, les deux parties fonctionnent un peu sur ce mode-là.
Le mot post-rock va très bien.
Et justement, c'est un peu la même question de la construction, mais quand on lit le roman, il y a des passages entre des analyses qui sont un peu à grande échelle sur un côté culturel général, et puis on a l'impression que les deux personnages sont des représentants. Et comment vous avez fait, dramatiquement, avec quels outils de théâtre vous avez fait pour faire ces changements d'échelle, ces va-et-vient un peu continuels?
Autant vous dire que c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une chose comme ça, un va-et-vient, comme ce dont vous venez de parler, c'est un vrai cadeau pour nous. Parce que c'est typiquement ce qui constitue l'émotion pour moi la plus grande chez Houellebecq à chaque fois. Par exemple, quand on parle de Michel Dzerzhinsky, il y a un moment du spectacle, dans la deuxième partie, où il y a quelqu'un qui dit que Michel Dzerzhinsky est allé au Monoprix et qu'il a trouvé du steak d'autruche. Et immédiatement après, quelqu'un dit de lui, errant parmi les humains européens, Michel Dzerzhinsky fut mal compris de son vivant. Et on a comme ça ce double mouvement qui est très, très fort chez Houellebecq, entre quelque chose parfois qui est extrêmement minimal, extrêmement concret, et au fond assez naze, quelqu'un qui voit du steak d'autruche à Monoprix, et quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur totale mondiale, l'incompréhension du monde face au génie d'un scientifique. Et ce double mouvement-là, il est tout le temps présent chez Houellebecq, et c'est ça qui crée à chaque fois à la fois le sentiment de drôlerie et en même temps l'émotion très forte qui peut s'emparer de nous. Donc moi j'en profite et finalement je fais simplement que garder cette juxtaposition là et la présenter au spectateur, j'en rajoute généralement assez peu à ce sujet. Donc c'est toujours très émouvant. Et puis Houellebecq, il a quand même ce talent immense pour un écrivain, c'est pour ça qu'on le compare souvent à Balzac et tout ça. C'est que c'est un des seuls écrivains contemporains qui fait semblant d'analyser la société contemporaine et actuelle comme si il l'analysait 100 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il la regarde comme ça un petit peu de haut et il présente les grands mouvements mondiaux comme des choses non pas qui seraient de l'ordre de son ressenti personnel, mais des choses qui seraient déjà inscrites dans les dictionnaires et admises par tous. Et du coup, ce courage-là, qui en fait pour certaines personnes quelqu'un de très désagréable, forcément, moi, m'amuse beaucoup et même...
Est-ce qu'on pourrait parler peut-être de la première partie qui fait spectacle de troupe, Grégory? Je sais que tu avais une question.
Oui, je voudrais savoir, justement par rapport à l'adaptation, à quel moment arrivent les comédiens avec vous? Parce que dans la première partie, c'est vraiment extrêmement plaisant de voir comment cette troupe prend en charge le matériau que vous leur avez proposé. Est-ce qu'ils ont participé à l'adaptation? Ou est-ce que... Enfin, comment vous avez travaillé en fait avec tous ces gens?
En fait, moi, je commence vraiment à faire, si vous voulez, à peu près 70% de l'adaptation, je la fais tout seul chez moi.
Ouais.
Ensuite, quand j'arrive au plateau avec les acteurs, j'ai un peu une théorie idiote hein, sur le travail de metteur en scène, mais j'ai tendance à penser que... Mais c'est pareil pour beaucoup de choses. Quand on rêve quelque chose dans son lit, quand on est dans son lit le soir vers 23h, minuit, on commence à se dire, on n'arrive pas à s'endormir et on a une idée sur sa mise en scène. Et on se dit, là, je suis le plus grand génie de l'histoire de l'humanité. Et ça va être demain, ça va être formidable. Et généralement, quand on arrive au théâtre, précisément cette idée-là n'est jamais gardée dans le spectacle parce qu'elle est mauvaise au final. Et avec les acteurs, il s'agit vraiment à chaque fois de choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je crée une adaptation, quelque chose qui ressemble vraiment, pour le coup, textuellement au spectacle final. Et au fond, eux me font la démonstration qu'une idée ne va pas fonctionner, qu'il faut trouver un angle différent. Donc le travail se fait comme ça. Et ça consiste ensuite à continuer à couper. Par exemple, il y a une longue séquence des particules élémentaires. C'est une séquence où, dans le livre, les deux personnages principaux vont voir leur mère mourir dans une ville qui s'appelle Saorge, au milieu des montagnes. Et ça a été 3 semaines de travail pour nous au plateau. Et au fond, au final, impossible de l'insérer dans le spectacle. Donc, on a coupé, on a modifié une scène et tout ça. Voilà, donc le travail, il y a un travail très fort d'adaptation, au fond, qui se fait au plateau avec eux. Mais bon, il ne s'agit pas d'un travail... On est un collectif, on se parle beaucoup, mais il ne s'agit quand même pas d'un travail où chacun a un avis égal à donner sur qu'est-ce qu'il pense du texte de machin. Enfin, vous voyez, c'est quand même un travail d'un metteur en scène avec ses acteurs et des acteurs qui proposent énormément. Généralement, on tombe d'accord de manière évidente quand c'est bien ou quand c'est mauvais, ça on peut à peu près se le dire, mais on ne fait pas un travail on n'est pas tous autour d'une table pendant des jours à discuter sur l'intérêt ou pas d'une chose, on essaye très vite.
C'est un collectif où chacun a une place.
Oui, voilà, mais au fond, c'est aussi un collectif parce que j'ai fait trois spectacles avec la plupart des acteurs des Particules élémentaires. Là, toute l'équipe des Particules élémentaires, techniciens et acteurs, seront sur le prochain spectacle, plus d'autres. Donc, c'est vraiment, on continue à travailler ensemble, on se suit. Et puis aussi, si vous voyez le prochain spectacle, vous verrez que des acteurs qui jouent des choses dans ce spectacle-là joueront des choses absolument différentes dans le prochain et c'est ça qui est excitant pour nous.
Oui, et puis c'est très plaisant d'avoir beaucoup de monde sur un plateau, hein, on ne le dit jamais assez.
Mais, je suis d'accord.
Mais ça permet justement de l'épique et un peu de théâtre.
Mais c'est une lutte, hein. Il faut
lutter.
Il faut lutter pour ça.
Et moi je suis tout seul sur scène, donc j'ai dû baisser les armes.
Est-ce qu'on peut poser une petite question sur la vidéo qui intéressait beaucoup Grégory?
Oui, notamment dans la deuxième partie, c'est à quel moment vous avez décidé qu'il y aurait de la vidéo et surtout... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est utilisée non pas pour combler un vide qu'il y aurait sur le plateau, elle est vraiment utilisée pour sublimer ce qui se passe sur le plateau. Je ne peux pas raconter, je ne le souhaite pas, je préfère que les gens se prennent la même claque. Mais voilà, à quel moment vous avez décidé qu'il y aurait de la vidéo ?
Tout de suite. Voilà. Si vous voulez, dans la manière que j'ai de travailler, je ne dissocie jamais. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut le faire. Ça me paraît une... Et pourtant, je l'ai vécu, parce que j'ai été acteur un petit peu, je l'ai vécu avec des metteurs en scène, et je ne comprends pas comment on peut dissocier à un moment le travail de l'acteur du travail technique de manière générale. Parfois, on est obligé de le faire, parce qu'on est dans un studio de répétition et que c'est compliqué, on le sait. Mais... Quand moi je travaille avec les acteurs, il y a mon musicien, je ne devrais pas dire ça, ils vont me disputer, mais le musicien du spectacle qui est là, enfin c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, et voilà, c'est mon pote et on est très très proches, le vidéaste qui est là, celui qui fait la lumière, celui qui fait le son, et tout le monde est là pour le travail en même temps que les acteurs. Et une scène est créée de manière égale par la personne qui fait la vidéo que par un des acteurs. Il n'y a pas de... Y a pas, non seulement il n'y a pas d'hiérarchie, mais en plus il n'y a pas d'organisation du travail différente. Mmh. Il ne s'agit pas de... Vous voyez, c'est comme le mot décor et le mot scénographie. À un moment, on a trouvé que le mot décor devenait illustratif et que poser un décor, c'était comme dire, OK, de toute façon, il n'y a pas de lien entre le décor et les personnes qui sont devant. Bon, bah là, au fond, la vidéo n'est pas un décor et la musique n'est pas un décor. Et il peut nous arriver d'arrêter une répétition pendant une heure parce qu'on veut trouver exactement la musique qui correspond à la scène et pas attendre 2 jours plus tard que le musicien ramène une autre musique, vous voyez.
Oui.
Donc la vidéo, tout fonctionne exactement comme ça. Et donc, on a besoin de travailler tout le temps avec la vidéo. Donc, de fait, elle ne devient pas un ajout esthétique, elle devient toujours une nécessité. Et puis, c'est simplement, pour terminer, c'est simplement une arme très bête, mais quand vous avez un coup de téléphone d'un personnage à un autre personnage, et vous avez plusieurs manières de le faire. Quelqu'un peut mimer un téléphone avec sa main. Ça m'est arrivé de le faire, mais je vous avoue que c'est pas ce que je préfère au théâtre. Mais on peut aussi utiliser un micro, mais on peut utiliser aussi la vidéo pour laisser au public imaginer quelque chose comme un visiophone. Vous voyez, même si c'est plus du tout la mode de dire visiophone. Et c'est simplement une arme supplémentaire, la vidéo, de ce point de vue-là. De la même manière que quand on a un personnage qui est tout au fond du plateau, pouvoir prendre son visage parfois en gros plan, c'est une arme aussi parce que le spectateur peut rentrer plus en lui. Vous voyez, donc c'est toujours à chaque fois, et j'ai jamais, je crois, enfin j'essaye de pas l'avoir, une tentation simplement esthétisante d'utilisation de la vidéo. C'est toujours d'arriver à créer quelque chose de très cohérent en partant forcément du texte et du plateau.
Bon, après tout ça, c'était fort intéressant. Je pense que nous avons besoin de nous détendre et nous allons rester dans l'ambiance des particules élémentaires et de sa déconstruction des modes musicales et religieuses avec un peu de musique New Age, avec un morceau qui s'appelle Life is Beautiful. C'est très Welbeck. À tout de suite pour Même pas peur, la suite sur Campus Grenoble 90.8.
Voilà, votre massage est à présent terminé et si vous n'êtes pas décédé, vous êtes bien de retour sur Campus Grenoble 90.8 pour Même pas peur, la suite avec Julien Gosselin qui met en scène les particules élémentaires de Houellebecq à la MC2. On continue tout de suite notre discussion, ne bougez pas, levez de rideau. Début de la représentation dans 10 minutes. Début de la représentation dans 10 minutes.
Bon, coup de projecteur sur vous, Grégory, et à toi. La première question, ou c'est à moi ?
C'est à toi.
C'est à moi. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier les choix successifs de ce que vous avez mis en scène comme une évolution dans la troupe, ou est-ce que c'est plutôt les goûts personnels qui vous portent et c'est l'idée de l'évolution, vous n'y pensez pas tellement, vous verrez bien plus tard.
Non, l'évolution, elle existe, c'est sûr. Les particules élémentaires, c'est le troisième spectacle. Donc, le premier, ça s'appelait Gen 01 par Avidino. Et c'était un texte vraiment exclusivement narratif. Le deuxième, qui s'appelait Tristesse animale noire, c'était un texte qui commençait déjà à mélanger des modes de narration, des modes de dialogue très très forts. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un très très bon texte de théâtre, Tristesse animale noire d'Anya Ehling, sans doute un des meilleurs textes qui a été écrit dans les dernières années. Et ensuite, vraiment, les particules élémentaires, première adaptation, tout ça, et c'était, il y avait quelque chose de, voilà, il y avait une évolution très nette dans le parcours, comme si on finissait par trouver absolument notre théâtre. Je ne sais pas si sur le prochain spectacle, il y a une évolution, en tout cas, il y a quelque chose de cohérent par rapport aux particules élémentaires, dans le sens où on va adapter un roman qui est très important pour peu de gens, mais pour les gens, enfin, je veux dire, en Amérique latine ou en Espagne, c'est un roman qui est important pour beaucoup de gens, en France, pour assez peu de gens, mais il est très important pour ce peu de gens, et c'est un roman gigantesque et formidable, et c'est aussi une tentative, si vous voulez. Moi, quand on commence un travail avec les acteurs, j'essaye toujours qu'on se dise « on ne va jamais y arriver ». Et là, je peux vous dire que sur les particules élémentaires, on se disait « on ne va jamais y arriver ». Sur le prochain, on se dit « on ne va jamais y arriver ». Donc là, on commence à être un peu excité, on a envie de travailler, quoi.
Et est-ce que vous vous diriez « on ne va jamais y arriver » sur un fait d'eau, par exemple ?
Ouais, mais moi, je n'aime pas trop
d'autres raisons.
Mais non.
Une question, c'est un peu de provoque.
Ouais, c'était non, mais je sais, mais c'est parce qu'il ne faut pas qu'on me lance sur fait d'eau, parce que sinon, je peux faire 2 heures là-dessus. Donc,
Très bien, bon, mais il nous reste 9 minutes, donc on va continuer. Donc l'émission s'appelle Même pas peur, donc c'est une émission qui veut engager les gens à aller au théâtre. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur au théâtre ?
Qu'est-ce qui me fait peur ? Ah ben, fait d'eau, ça me fait peur, par exemple.
On y revient.
Ouais. Non, ce qui me fait peur, je peux vous dire, c'est la différence, si vous voulez. Les gens ont l'impression que d'un côté, il y a une forme de théâtre. Les gens, je parle de manière générale, et d'ailleurs ceux qui vont peut-être pas souvent au théâtre, qui auraient un théâtre contemporain ennuyeux et complexe, et puis à côté, un théâtre patrimonial regardable, mais quand même ennuyeux. Et j'ai la sensation qu'il faudrait accentuer vraiment la possibilité. Il faudrait que le théâtre contemporain soit 90% de la production théâtrale en France. Ce serait absolument normal. Il serait inimaginable qu'on aille au cinéma et qu'on aille voir uniquement des remakes de remakes, encore que ça se passe. Mais le cinéma a une histoire beaucoup plus récente. Mais je trouve absurde qu'aujourd'hui, une grande part de la production théâtrale soit une production qui nous montre qui nous dit sans arrêt « Regardez, Feydeau nous parle encore aujourd'hui » ou « Molière nous parle encore aujourd'hui » ou « Regardez, voilà, justement, les bourgeois de la biche sont les traders du 21e siècle », ce qui est absolument faux, en l'occurrence. Et évidemment, les bourgeois de la biche sont juste les bourgeois de la biche et rien d'autre. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, dans le théâtre privé, on l'assume complètement. Dans le théâtre public, on a toujours envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Donc il faudrait qu'au théâtre aujourd'hui, comme dans l'art contemporain, comme dans le cinéma, comme dans la musique, il faudrait que le 90% de la production soit de la production contemporaine. Ce serait absolument normal et ça ferait rentrer à un moment le théâtre, ça le ferait sortir peut-être d'une niche dans laquelle il est isolé, parfois dans laquelle il se complaît, je trouve aussi. Il faut que le théâtre devienne un art. Il faut, si vous voulez, c'est facile de dire sans arrêt théâtre populaire, ça c'est quelque chose qui m'épuise aussi un petit peu. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que veut dire le terme populaire? Est-ce que c'est aujourd'hui comment on peut faire entrer le théâtre dans son siècle? Voilà, c'est une question que je me pose aujourd'hui. Je pense que le patrimoine est en train de tuer le théâtre.
Je pense que nous sommes à peu près d'accord autour de cette table-là, donc on va passer à la question suivante. Vous avez une formation de comédien et vous ne jouez pas dans cette pièce, si je ne me trompe. Pourquoi vous avez voulu distinguer ces deux rôles? Est-ce qu'ils vous paraissent inconciliables?
Ah non, c'est parce que je ne suis pas très bon. Mais ce n'est pas une blague ni de la fausse modestie, c'est que vraiment je ne suis pas très bon. Et qu'en plus de ça, j'aime assez peu ça, jouer. Et c'est assez. Je trouve que le métier d'acteur, si vous voulez, est quand même la chose la plus compliquée dans les métiers du théâtre. Et je préfère laisser ça aux autres, d'être aussi stressé pendant toute une partie de la journée. Là, les acteurs, vous voyez, jouent 4 heures par soir pendant 2 semaines à la MC2 à Grenoble. C'est un exercice physique qui est gigantesque, hein, il faut l'imaginer. Donc, je trouve que c'est un sacerdoce d'être acteur et il faut avoir des satisfactions pour ça. Moi, j'avais très peu de satisfaction, comme je me trouvais assez mauvais et que j'avais très peur. Donc, pas suffisamment de satisfaction. Mais j'en ai dans la mise en scène, donc ça me va très bien.
c'est assez amusant, ça donne vraiment envie de vous connaître un peu mieux si on faisait le petit portrait chinois, Grégory.
Le portrait chinois.
Le portrait chinois.
Alors, Julien Gosselin, si vous étiez un auteur.
Ah ben, si j'étais un auteur, Michel Houellebecq, allons-y.
Alors, si vous étiez un metteur en scène.
Romeo Castellucci.
Très bien. Si vous étiez une pièce de théâtre.
Si j'étais une pièce de théâtre. J'aime bien Ivanov, tiens, par exemple.
Ivanov de Tchekhov, très bien. Si vous étiez un élément de costume.
Une grosse fraise dégueulasse dans un spectacle patrimonial, justement.
Un élément de décor.
Un élément de décor, je serais au choix tous les éléments typiques du théâtre des années 90, c'est-à-dire un escabeau, une valise ou un landau.
Si vous étiez un acteur, justement, comme ça ne vous plaît pas comme métier.
Un acteur ? Ah, si j'étais un acteur, à qui j'aime bien comme acteur ? Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime énormément. Dans les derniers, tiens, Olivier Gourmet, que je trouve vraiment formidable.
Et si vous étiez une actrice ?
Ah, si j'étais une actrice. Ça, c'est une bonne question. Ah, j'ai du mal à vous répondre. Ah. Je sais pas, peut-être Ingrid Chauvin dans une saga de l'été de TF1. Ah,
ça, c'est inattendu. Alors.
Le mélange des genres, je crois que c'est toujours. Ça l'idée. Si vous étiez un théâtre, dernière question.
Ah, un théâtre Ah si, je serais... Moi, je viens du nord de la France, d'une ville qui s'appelle Calais, et je serais le Chanel à Calais, qui est un théâtre qui a été construit dans des abattoirs et qui est un théâtre que j'aime énormément. Alors voilà, je suis ce théâtre-là.
Bon,
merci beaucoup.
Je ne sais pas si on vous connaît un peu mieux après tout ça, mais c'est parfait. On passe tout de suite à l'agenda des pièces à voir. Bon alors, je rappelle, Les Particules élémentaires, c'est de Michel Houellebecq, adaptation, scénographie, mise en scène de Julien Gosselin par la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur, et c'est à la MC2 jusqu'au 21 mars. Alors s'il vous reste encore des soirées à combler après ça, Grégory et moi vous proposons très rapidement les pièces suivantes. Alors moi d'abord je vous propose de Laura Tirandas Chocobé, mise en scène de Benjamin Moreau et qui se joue au théâtre 145 du 26 mars au 11 avril. Alors le slogan, en fait c'est pas vraiment un slogan, c'est plutôt un pitch, est très fascinant. Heureusement, on écrit encore des tragédies. Donc moi, ça me donne tout de suite envie de le voir. Et quand on sait en plus que la tragédie se passe lors d'un concours de Miss en Guyane, alors là, ça me donne encore plus envie. Et petit spoiler, en fait, on va quand même l'inviter dans la quotidienne. Ça a l'air vraiment très intéressant. Grégory, qu'est-ce que tu
retournes ? Oui, alors moi, je conseille très vite 2 spectacles qui vont se jouer au Tricycle. Le premier, c'est Les Pourparlers, mise en scène par Anne-Laure Pigache, qui se joue jusqu'au 19 mars. Donc spectacle sur le son, les groupes de parole. Et enfin, le deuxième, La vie d'artiste, le troisième volet du fil rouge du Tricycle, dont nous vous parlerons plus longuement le mois prochain, puisque Tristan Dubois sera notre invité.
Bon, c'est l'heure de se quitter, c'est triste. Hein. Je pense
c'est
qu'on aurait
terrible.
Pu rester
aurait
une bonne
rester
heure
encore
et demie
une bonne
de
heure
plus.
Et demie.
Hein, mais bon.
Donc nous espérons vous avoir donné envie de pousser la porte d'un théâtre. Alors on remercie Julien Gosselin d'être venu nous parler de lui-même, de la pièce qu'il monte.
Merci à vous.
Un dernier appel pour Les Amnésiques, Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq, adaptation, scénographie, mise en scène de Julien Gosselin par la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur. C'est à la MC2 jusqu'au 21 mars.
Allez, à la prochaine Grégory.
À la prochaine Héloïse.
Ha ha ha!